Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Comment lutter contre le stress d'une course? J'ai souvent parlé de l'impact du stress sur notre corps, mais parlons-en aujourd'hui sur notre mental et notre capacité à nous entraîner ou participer à des courses ou même avoir l'énergie de finir certaines courses. Le but de cet épisode est de vous aider à muscler votre cerveau avec quelques outils simples mais très efficaces. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes championnes, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode Muscle ton jeu.
Muscle ton jeu! Muscle ton jeu! Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.
Vous le savez, l'idée des épisodes Muscle ton jeu, c'est de venir vous aider, vous bouger un petit peu, peut-être aussi sur certains éléments, mais en toute bienveillance, en revenant sur une phrase, une idée récurrente que j'entends chez mes clients, chez mes abonnés. L'idée, c'est de vous aider à prendre conscience de certaines limites, de comment les dépasser, de vous donner des outils, notamment de préparation mentale, pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde. Mais avant de débuter cet épisode, je tiens à remercier NutriPure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ma forme, dans ce podcast et donc dans ma capacité à publier aussi les épisodes et travailler dessus pour vous amener les informations les plus utiles et précises. NutriPure est une marque de compléments alimentaires de Toulouse, fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté. Leur ADN est de créer des compléments alimentaires qualitatifs, hautement biodisponibles et sans additifs inutiles. Et un point sur lequel nous sommes vraiment d'accord, c'est que NutriPure ne fait pas de fausses promesses. Les compléments viennent compléter mon fameux triptyque SAM, sommeil, alimentation et mouvement, et même aussi compléter le I de idée, vous savez, la partie mentale. Donc c'est pas des pilules magiques. Et je dois dire que j'utilise des compléments NutriPure au quotidien. Depuis cet hiver, j'utilise par exemple multivitamine ou encore le Pure Zen pour m'aider sur mon stress, un sujet dont je parle très régulièrement, ainsi que les oméga 3 EPAX pour compenser ma consommation de poissons trop faible et aider mon cerveau. Vous bénéficiez désormais de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTERS avec un S. Et bien entendu, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, dans la description de l'épisode, vous pouvez cliquer dessus. Et la réduction s'appliquera sur votre commande. Et donc maintenant, venons-en au sujet du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du stress sur la performance physique. Parce que vous avez déjà perçu, je pense, l'impact du stress sur votre performance physique, que ce soit pendant l'entraînement ou une course. Je parle souvent du stress, j'en ai souvent parlé sur ce qui se passe dans notre corps, hein, au niveau des hormones, mais on va aller un petit peu plus loin ou un petit peu différemment aujourd'hui en revenant en fait sur ce qui peut se passer directement dans le fonctionnement de notre corps, y compris quand nous sommes en action. Alors pour ça, je vais vous parler des travaux du docteur Candace Pert. Elle est connue pour ses études sur le rôle des neuropeptides qui sont des messagers chimiques des sentiments et des pensées à travers le corps humain. Et elle les qualifie de molécules de l'émotion. Et d'ailleurs, c'est le titre de son livre. Les neuropeptides interviennent dans la régulation du sommeil, de l'éveil, de l'émotion, de la récompense, de la douleur, de l'apprentissage ou encore de la mémoire. Alors, il y en a toute une liste. Et en fait, dans son livre, Les molécules de l'émotion, Candace Pert explique que le cerveau est extrêmement bien connecté au reste de notre corps, si bien qu'elle parle d'une sorte de cerveau mobile, comme si finalement notre cerveau était un peu partout par le biais de toutes ces connexions. Je cite ce qu'elle dit, elle dit « C'est une toile entre les organes et les systèmes du corps qui réagit aux changements environnementaux internes et externes avec des réponses complexes, subtilement orchestrées. » Et en fait, ces travaux et d'autres ensuite valident le lien entre le corps et l'esprit, bien entendu, et vous l'expérimentez souvent quand une séance se passe bien. On parle souvent des hormones du bonheur qui sont générées par le sport. Mais vous l'expérimentez aussi quand ça se passe mal ou quand vous anticipez que ça va mal se passer. En fait, si votre système d'information interne évalue qu'il y a un danger, bah en fait, il va se mettre en mode protection. Et donc, ça peut aller par couper l'énergie, notamment même le glucose, hein, via le flux sanguin, d'envoyer moins d'énergie vers les muscles, d'envoyer des messages négatifs aussi qui vont réduire la motivation, gérer des émotions négatives. Ça peut intervenir par exemple sur l'entraînement, où vous n'avez pas envie de vous entraîner, vous n'avez pas la motivation pour vous entraîner. Ça peut arriver avant des courses, hein, vous y allez un petit peu en traînant des pieds comme on dit. Il peut y avoir aussi ça pendant une course, hein, tout simplement en disant je vais pas y arriver, je vais pas finir, ça va mal se passer. Vous l'avez vécu probablement, ou alors vous êtes en train de le vivre, et peut-être vous êtes à la veille d'une course là aujourd'hui, et vous êtes en train de vous demander comment gérer ça. C'est le but un petit peu de cet épisode, c'est de vous donner des outils simples que vous pouvez mettre en œuvre là assez rapidement pour arriver à gérer ça. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes dans des mécaniques de stress, hein, et ça peut arriver. Donc, je disais à l'entraînement, avant une course, pendant une course, ça peut arriver par tout un tas d'éléments qui peuvent venir engendrer en fait tous ces sentiments, ces émotions, ces pensées, ce fonctionnement-là. Alors, quelques sources qu'on peut avoir, par exemple, la pression du résultat. Alors, on se met beaucoup de pression sur le résultat, on a peur de pas y arriver. Le volume d'entraînement, ça génère un gros stress. Alors, on parle par exemple de stress mécanique, hein, qui est le stress qu'on sur nos organes, sur les muscles, sur les os, sur les articulations. Dès qu'on a un volume d'activité plus important, ça génère beaucoup de stress. On sait que sur la préparation d'un gros objectif, et notamment quand on a peur hein, de ne pas y arriver, bon, on se met beaucoup de stress, on fait des grosses séances, et ben ça peut créer justement un problème de blessure, et qui peut venir de cette quantification du stress mécanique. Ça peut venir aussi d'une vitesse trop importante hein, qu'on peut avoir. Alors ça peut être à l'entraînement, on n'arrive pas à finir ses séances parce qu'on court trop vite. Ça peut être en course, on part trop vite sur par exemple un semi-marathon ou un marathon, et on n'arrive pas à tenir, on se dit qu'on va pas arriver à tenir. Ça peut être aussi la fatigue globale, mais aussi fatigue pendant la course, pendant l'événement, pendant l'entraînement, dans une sortie longue peut-être. Vous avez déjà ressenti par exemple à un moment donné de la fatigue en disant « voilà, j'arrête parce que je me sens trop fatigué », et puis ça génère ensuite des pensées qui vont dire « mais comment je vais faire pour faire par exemple ce 10 km ou ce semi-marathon que j'ai prévu alors que j'arrive pas à faire cette sortie-là ». Et je parle de ces distances-là, mais j'ai vu sur Instagram il y a quelques jours quelqu'un qui dit « je n'ai pas réussi à boucler 50 km alors que j'ai un trail de 160 ou 130 à faire dans quelques mois ». Comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? On voit bien que c'est un stress qui peut engendrer de la démotivation, qui peut engendrer de la peur, des craintes, qui peut engendrer beaucoup d'éléments, vraiment beaucoup d'éléments, y compris d'ailleurs qui peut amener aussi à dire « je vais en faire encore plus pour préparer encore plus », et donc qui va amener ensuite plus de stress mécanique, et donc là on a des mécaniques justement qui vont venir les unes sur les autres, et on voit que ça peut amener jusqu'à des motivations, la blessure, l'abandon, se dire qu'on n'y arrivera jamais. Et puis il y a aussi des facteurs qui sont plus émotionnels aussi, puis il y a des facteurs qui sont liés à la vie, à notre histoire tout simplement, et des fois des trucs qu'on n'a pas résolus. Alors je dis tout simplement, mais c'est pas le plus simple justement, les histoires de famille, le travail, les mauvaises expériences passées, les messages qu'on a entendus dans notre enfance, tu n'es pas sportive, tu n'es pas sportif, tu n'y arriveras jamais, pourquoi tu arriveras à faire ça, ce que par exemple la famille on peut très bien vous renvoyer ce message de dire mais tu n'as jamais couru, pourquoi tu te lances là-dedans, mais pourquoi tu vas y arriver, pourquoi tu penses que tu vas faire ça, tu vas te fatiguer pour rien, tu vas te blesser. Rappelez-vous quand même que ce sont leurs peurs à eux, alors ils ont peur pour vous hein, dans ces cas-là, mais en fait ces pensées-là vont venir sur vous et peuvent engendrer des pensées négatives en vous disant mais pourquoi est-ce que moi je m'entête à faire ça et si eux ils avaient raison. Vous voyez, on peut avoir ce genre de pensées comme ça. Tout ça en fait c'est des formes de stress. Et bien sûr, on comprend, quand on reprend les travaux sur les molécules des émotions, que toutes ces pensées négatives, tous ces stress que vous avez, peuvent engendrer, hein, et vont engendrer probablement tout un tas de problèmes de fonctionnement du corps ou du fonctionnement du cerveau, des émotions, et que tout est relié entre eux. Retenez quand même que le problème n'est pas forcément l'existence de ces éléments. Vous ne pouvez pas d'ailleurs forcément les faire disparaître comme ça, parce qu'il y en a, vous ne pouvez pas les faire disparaître, vous ne pouvez pas faire disparaître votre histoire. Votre histoire, c'est votre histoire. Votre famille, c'est votre famille. Votre travail, c'est votre travail. Les expériences que vous avez vécues par le passé, elles sont là. Donc vous ne pouvez pas les faire disparaître en fait. Mais ce que vous pouvez par contre faire, c'est savoir comment vous pouvez les gérer. Alors, il y aurait plein de moyens de gérer les choses. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de quelques outils, mais en fait, il faut savoir quand même que nous avons beaucoup d'outils, beaucoup de stratégies, et que certains, en fait, vous les appliquez sans même peut-être y penser comme ça, mais la préparation d'une course, c'est l'apprentissage du stress, de la fatigue, de courir plus longtemps, de courir plus vite, de courir plus longtemps et plus vite, de courir à une allure précise sur le bas de son record, de manger en courant, de s'alimenter, de s'hydrater, enfin toutes ces questions-là. Quand vous faites par exemple une préparation pour une course, quelle qu'elle soit, vous allez travailler tout ça parce que la répétition des entraînements, la répétition aussi de l'alimentation en course ou à l'entraînement, de l'hydratation, du matériel que vous utilisez, des chaussures que vous allez utiliser, etc., tout ça, en fait, va habituer votre corps, va habituer aussi votre esprit à gérer le stress que vous lui donnez, en fait, en faisant ça. Donc, finalement, cette histoire-là d'entraînement, ben c'est une gestion du stress. On s'acclimate à une forme de stress qu'on applique à notre corps. Il faut se rappeler que l'entraînement, c'est du stress, qu'il faut un certain niveau de stress pour progresser et que c'est quand il y a trop de stress que là, on court à la catastrophe et à la blessure. J'ai envie de dire aussi, par exemple, que des séances de vitesse qui sont pas forcément agréables et des fois on se demande à quoi elles servent, ben peuvent aussi finalement servir à des choses comme je suis capable de courir plus vite, je suis capable de courir vite si j'en ai besoin, et plutôt que de rentrer dans un mode si je fais ça, je vais mourir. C'est comme ça, en fait. Si vous faites un entraînement, par exemple, des séances de VMA type des 30-30, type des accélérations, type, je sais pas, des... même des 1 km, 2 km à vitesse élevée, forcément c'est désagréable. Alors la première fois c'est désagréable et puis ça va devenir plus facile petit à petit. Et en fait ça va vous prouver que vous pouvez le faire et qu'à la fin vous êtes toujours vivant. Donc votre cerveau en fait, votre esprit, votre corps globalement, bah, ça lui fait baisser son stress puisqu'en fait il se rend compte que non, il va pas mourir si vous courez à cette vitesse-là. Et d'ailleurs, ça fait penser que souvent, on a peur. Alors, l'épisode de mercredi, par exemple, sur la douleur, on parlait justement de la peur de certains gestes, la peur de faire certaines choses. Il y a des gens qui ont peur, par exemple, de sauter. Il y a des gens qui ont peur de descendre vite. On a peut avoir peur, par exemple, on en a parlé sur une cheville blessée, comme une entorse, peur de porter quelque chose, etc. Tout ça, en fait, c'est des stress qu'on va se créer, non pas dans l'action de faire quelque chose, mais dans la pensée qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça. Et donc, si on s'entraîne pas à le faire, bah finalement, on peut toujours penser que on va à la catastrophe si on le fait. Voilà. Et c'est vrai que l'entraînement fait partie en fait des moyens d'apprivoiser ce stress, de gérer ce stress. Une stratégie de course aussi peut vous aider à gérer ce stress. Si vous mettez en place une stratégie de course, alors ça ne veut pas dire qu'elle va se passer comme vous pensez que ça va se passer, mais en tout cas en vous disant bah, j'ai une stratégie, s'il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut marcher sur une stratégie de course, mais ça peut marcher sur une stratégie d'un défi, par exemple. Moi, sur mon défi vélo de l'an dernier, quand je pars en vélo pour faire une partie du Tour de la France, il y a un moment donné, j'ai une stratégie de dire si jamais il y a un jour je suis trop fatigué, si ça va pas, si il faut que je me repose et que j'arrive pas à dormir, soit dans le hamac, soit dehors ou quoi que ce soit, j'ai la stratégie de m'arrêter dans un Airbnb, dans un hôtel ou quoi que ce soit. C'est une stratégie de repos. J'ai aussi toujours sur moi, par exemple, lors de ce périple à vélo, j'avais aussi toujours de quoi manger. J'avais notamment, par exemple, un paquet de cacahuètes qui était une stratégie de sécurisation en disant si jamais j'arrive que toutes les boulangeries sont fermées, que les magasins sont fermés, que j'arrive quelque part et que j'ai faim et que je trouve pas une pizzeria ouverte ou je ne sais pas quoi, j'aurai toujours un stock de calories en cacahuètes. En plus, c'est salé, ça fait un peu de protéines et tout. C'est peut-être pas le meilleur plan, mais en tout cas, j'ai de quoi manger. J'avais aussi d'autres trucs de secours. Par exemple, un réchaud pour faire chauffer de l'eau avec des pâtes, vous savez, lyophilisées, des choses comme ça. Ça calmait mon stress, tout simplement. Sur une course, sur un défi, sur un entraînement, vous avez tout un tas de stress. J'ai parlé de stratégie de course, je parlais de stratégie de défi. Vous voyez qu'en fait, ça s'applique à tout. Vous pouvez aussi, par exemple, à l'entraînement, faire des accélérations va vous montrer, par exemple, que être capable de courir plus vite, être capable d'accélérer, peut aussi calmer la peur de ne pas passer la barrière horaire. Je l'ai vu il y a pas très longtemps chez quelqu'un qui s'était inscrit à une course et qui avait une barrière horaire, qui disait je vais pas la passer, c'est très dur de la passer. Et donc, finalement, ça lui a mis un stress de devoir s'entraîner quand même à faire des entraînements de vitesse, alors qu'elle préparait cette personne plutôt des sorties longues, parce qu'elle a un objectif d'une course qui était longue. Mais le fait de préparer une course ou une barrière horaire qui était plus courte, ça lui disait ben ne néglige quand même pas un peu la vitesse, parce que si tu as besoin d'accélérer sur le 1 ou 2 derniers kilomètres pour passer la barrière horaire, tu seras bien contente de le faire. Si vous avez suivi la Barclay et la première femme qui termine, si vous regardez sa dernière ligne droite, vous constatez que c'est une accélération qui lui a servi. Et j'avais cité aussi sur des courses américaines aussi, sur des 100 miles, où la dernière ligne droite de certains concurrents, par exemple, a été rentrée un peu dans la légende de la course, parce que passer une barrière horaire de quelques secondes, parce que vous êtes capable d'accélérer à la fin, c'est aussi mentalement le fait de se dire « je suis capable de le faire, j'ai les ressources pour le faire ». Alors, sans aller sur la Barclay, ça peut arriver sur... Moi, j'ai vécu ça sur des courses avec des barrières horaires. Ça peut arriver, mais ça pourrait aussi vous arriver, par exemple, sur un marathon pour battre votre record peut-être de quelques secondes si vous avez envie de le battre et que vous avez une dernière ligne droite à faire et que vous dites « je suis capable d'accélérer, je suis capable de le faire, je peux le faire ». Donc voilà, on est dans ces stratégies-là. Mais les stratégies-là, j'en avais parlé aussi il n'y a pas longtemps, sur le fait de partir vite, par exemple, et de se dire, je suis capable, si je pars vite, de reprendre mon souffle, de ralentir, de reprendre mon souffle et de garder l'énergie pour bien finir, fait partie aussi d'une stratégie qui va calmer le stress à condition que, en fait, vous soyez entraîné. C'est pour ça que l'entraînement sert à quelque chose, bien sûr, pour développer le corps, les capacités du corps, les capacités cardiovasculaires, mais aussi nos capacités mentales. On pourrait rajouter plein de choses là-dedans, ce que vous mangez, ce que vous allez boire. J'ai parlé par exemple hier dans l'épisode de Sport et Nutrition de la question de savoir s'il fallait prendre un camelback pour faire un marathon. Et ben, ça fait partie en fait de stratégies qui peuvent aider à vous calmer votre stress. Votre équipement vous aide, le fait de savoir que vous avez toujours une barre sur vous, le fait de savoir que vous avez de l'eau et que même si vous ratez un ravitaillement ou même s'il n'y a plus d'eau au ravitaillement, allez savoir, et ben vous aurez quand même de quoi boire pendant la demi-heure suivante. Et ben ça peut calmer votre stress. Vous pouvez vous dire je suis plus tranquille. Et comme je le disais dans l'épisode de Sport et Nutrition, j'ai vu des commentaires cette semaine par exemple sur mon compte Instagram de personnes qui étaient stressées en se disant ouh là là mais ça me stresse de pas pouvoir avoir d'eau avec moi si je pars sans sac à eau, de compter que sur les ravitaillements officiels de la course, par exemple sur un marathon. Donc là on voit que ce sont des stress en fait. Et c'est aussi là que la préparation mentale intervient pour gérer ses pensées, pour trouver des mécaniques pour les gérer, pour trouver des stratégies. Tout ce que je viens de vous dire ici, en fait, ce sont des stratégies qui sont des stratégies d'entraînement, mais aussi des stratégies de préparation mentale, finalement, pour dire, comment je vais calmer mon stress, comment je vais gérer ma motivation, comment je peux gérer ces événements internes, externes qui peuvent se passer. J'avais parlé par exemple de la fois aussi où quand en trail par exemple sur des distances un peu longues, quand je commence à m'ennuyer, je parle à mes pieds ou à mon corps, je demande à mon corps si tout va bien, est-ce que mon genou va bien, est-ce que ma cuisse va bien. Tout ça en fait, ce sont des techniques qui viennent de la préparation mentale. Et puis il faudrait rajouter aussi dessus l'expérience que vous avez, c'est-à-dire l'expérience d'anciennes courses, l'expérience de ce que soit sur la même distance, soit sur d'autres distances. C'est ce qui m'amène justement aux trois outils que je voudrais vous proposer aujourd'hui, qui sont trois outils simples. Et le premier justement se base sur l'expérience, c'est le concept du réservoir à confiance. Ça je le partage quasiment à toutes les personnes que j'ai en préparation mentale, que ce soit une préparation mentale d'ailleurs pour faire des courses, soit une préparation mentale aussi pour changer de vie, pour avoir un mode de vie plus sain, tout, vous savez, pour rééquilibrer le mode de vie. Des fois c'est sur le sommeil, des fois sur l'alimentation, des fois sur plus de mouvement, des fois c'est sur l'ensemble de trucs. J'ajoute cette notion de réservoir à confiance. L'idée est très simple, c'est vous prenez une feuille, vous notez dessus vos réussites, toutes les réussites que vous avez, que vous trouvez utiles par rapport à ce que vous êtes en train de préparer. Même si ce n'est pas sur la même course, même à la limite si ce n'est pas sur une course, si c'est un autre type de projet. Par exemple, si vous démarrez le vélo, le fait d'avoir fait des choses en course à pied va vous servir pour dire j'ai réussi à faire des choses en course à pied, je peux faire des choses en vélo. De même, je peux faire des choses en triathlon. Vous pouvez avoir ces trucs-là et puis on pourrait même dire j'ai réussi à gérer un projet dans tel domaine, pourquoi j'arriverais pas à gérer le projet de m'entraîner pour telle course qui me fait envie. Donc on peut vraiment les passer de l'un à l'autre. Et dans le même sens d'ailleurs, cette feuille de ce réservoir à confiance peut vous dire aussi dans votre boulot, dans votre vie personnelle, j'ai réussi à gérer une préparation marathon et arriver à la fin de mon marathon. Donc ça, je sais faire ce projet-là. Pourquoi je n'arriverai pas à gérer le projet d'organiser, une fête de famille? Ça paraît totalement différent l'un de l'autre. Et pourtant, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même chose. Et si vous êtes entrepreneur comme moi, vous savez que dans l'entrepreneuriat, on peut organiser son entrepreneuriat de la même manière qu'on organiserait finalement la préparation d'une course, ou inversement, c'est à vous de voir dans quel sens vous prenez l'histoire en sachant ce que vous faites, si vous êtes plus à l'aise dans l'un ou dans l'autre. Je vais vous donner des exemples de réservoir à confiance, de ce que vous pouvez mettre dans un réservoir à confiance. Par exemple, vous pouvez mettre « j'ai fait une belle préparation ». Donc je sais que je me suis bien préparé, donc j'ai confiance parce que je me suis bien préparé, tout est prêt. J'ai suivi mon plan, donc si j'avais un plan qui était bien prêt, tout, hop, j'ai suivi mon plan, donc je suis prêt, je suis prête. J'ai tout préparé, j'ai préparé la logistique, j'ai préparé mes affaires. Moi par exemple, la veille d'une course pour baisser le stress, je prépare tout le sac, je prépare toutes les affaires, je prépare aussi, je mets les petites épingles sur le dossard, j'accroche le dossard la ceinture porte-dossard, enfin tous ces trucs-là. On peut les gérer à l'avance. Pas besoin de se mettre de la pression au dernier moment en disant « Waouh, j'ai oublié les épingles » alors qu'on a 5 minutes de départ. Donc ça, on peut gérer. De même qu'on peut repérer, par exemple, des choses repérer le trajet, par exemple, se dire « Tiens, il me faut 20 minutes pour y aller. » Donc, on peut se dire que ça, une fois qu'on l'a fait, Ben, sur ma feuille de, sur ma feuille, la veille d'une course, par exemple, vous pouvez le faire, vous pouvez dire, ben voilà, j'ai tout préparé, je sais où il faut aller, je sais où je vais me garer, j'ai, toutes mes affaires sont prêtes, etc. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et puis, vous allez aussi insérer des trucs comme sur la préparation, mais aussi ce que vous avez vécu avant. J'étais heureuse de mon 10 km ou j'étais super content de mon semi-marathon, qui s'était bien passé. Donc, voilà, je sais que je suis capable de le faire, je sais que j'étais capable de le faire, donc je peux le refaire. Ma sortie longue était super. Voilà, ça aussi. Ou alors, vous pourriez avoir aussi des choses qui sont un petit peu rassurante. Il pourrait y avoir un truc, par exemple, si une sortie s'est pas très bien passée, vous pouvez y avoir un truc aussi. Je disais, bah, sur la course précédente, sur la préparation précédente, ma sortie longue, ma dernière sortie longue, c'était moyennement bien passée, mais la course s'était bien passée. Donc là, ma sortie longue, elle s'est peut-être pas très bien passée comme j'espérais, mais finalement, pourquoi ma course se passerait mal, puisque la dernière fois, c'était passé un petit peu comme ça. Donc ça vous remet en confiance. Vous comprenez l'expérience, un petit peu comme ça. Et donc ça, vous pouvez le faire en fait à tout moment, y compris la veille de la course, vous pouvez lister, allonger votre réservoir de confiance au fur et à mesure, et dès que vous avez des pensées négatives, vous pouvez venir les chercher. Et donc la veille ou le matin de la course, vous pouvez reprendre votre liste en disant bah, « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc je suis en confiance ». Et puis même pendant une séance ou une course, vous pouvez vous dire « bah voilà, j'ai fait mon plan, donc cette séance-là, s'il est prévu dans le plan, je suis capable de la faire parce que j'ai fait tout ce qui s'était passé avant. Cette course-là, je suis capable de la faire parce que j'ai fait tout ce qui s'était passé avant, parce que je me suis bien préparé, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai mangé ». Vous avez compris, votre réservoir à confiance, à chaque fois que vous avez une pensée négative qui arrive, vous ouvrez le robinet du réservoir à confiance et vous venez remplir en fait votre esprit d'une dose de confiance en fait. Voilà, tout simplement. Autre aspect pour gérer la confiance comme ça, le deuxième outil, c'est ce que j'appelle les mots magiques ou les gestes magiques. Cela demande un petit peu d'entraînement. Là, l'idée est d'associer un mot, une expression, un geste ou un objet à une pensée positive. Hein, on pourrait parler un petit peu d'ancrage pour peut-être dans certaines techniques. Ça serait par exemple utiliser le mot comme respire. Moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup pour me détendre quand je me sentais un peu tendu pendant une course, par exemple. Quand je sentais, par exemple, que je commençais à respirer par le haut du corps, que j'avais les épaules qui étaient un peu... je remontais un peu les épaules ou je sais pas quoi. Tout un tas de trucs qui étaient des gestes, en plus, un peu gestes parasites. J'avais, et je l'utilise encore de temps en temps, ce mot « respire » un peu, quand il y a un peu de stress comme ça. « Respire ». Et en fait, ça m'amène à me concentrer sur ma respiration et donc être mieux. Parce que du moment qu'on aurait fait rentrer plus d'air, forcément, le corps fonctionne mieux. Hein, donc, c'est un peu logique. Et on sait aussi que le rôle de la respiration, j'ai fait un épisode il n'y a pas si longtemps que ça sur le sujet, le rôle de la respiration aussi sur l'ensemble du fonctionnement du corps, y compris sur le mental. Donc le fait de respirer, par exemple, est super intéressant en soi. Et en fait, ce mot respire me rappelle en fait de dire, bah tiens, calme-toi, respire. Dès que le cardio s'emballait, dès que j'ai senti que j'ai des positions un peu bizarroïdes, bah, sur des courses, j'utilise ce mot et ça marche très bien pour moi. J'ai aussi, par exemple, la technique de mon bracelet, qui est aussi associée à une pensée. Voilà, j'ai un bracelet, champion du monde de mon monde, qui est associé en fait à ça, qui me rappelle pourquoi je le fais, hein, qui me rappelle aussi ce que j'ai fait, parce que ces bracelets-là, par exemple, je m'étais offert après une course, donc voilà, j'ai ce truc-là, donc j'ai d'autres bracelets, voilà, tout un tas de choses comme ça, mais vous pourriez aussi avoir, hein, dans les ordres de confiance, je ne l'ai pas cité, par exemple, vous pourriez avoir votre mur de dossard, votre mur à médailles chez vous, quand vous le regardez, vous dites, oh, j'ai fait tout ça, donc j'ai la confiance pour faire ce que je suis en train de préparer. Vous voyez, il y a tout un tas de trucs qui peuvent jouer comme ça, de même que vous entraînez avec un t-shirt finisher, hein, je veux dire, tout ça fait partie exactement du réservoir à confiance, de même que les objets magiques, pourriez-vous dire, un peu comme les joueurs de foot qui mettent toujours les mêmes chaussettes, le même slip ou je ne sais pas quoi, pourquoi pas. Vous pouvez avoir des trucs qui sont des gestes en fait, hein, c'est des choses que j'avais travaillé par exemple avec des personnes, y compris dans d'autres sports, hein, mais qui peut être un petit geste. Alors par exemple, ça pourrait de dire je me touche la main, ou par exemple je reviens sur le bracelet, je touche mon bracelet, je touche ma montre cardio, quelque chose que vous avez avec vous, que vous associez au fur et à mesure avec l'entraînement. Ça demande un petit peu de pratique pour faire ça, mais vous dire bah tiens, je touche mon bras, ça va bien, hein, voilà, un petit peu ce truc là un petit peu. Donc ça peut être de regarder, ça peut être de toucher, mais ça pourrait être, alors je vous dis pas de vous toucher l'oreille ou je sais pas quoi, mais à la limite avoir un petit geste. Et l'objet marche bien, parce que j'ai parlé de bracelets. Rappelez-vous, j'ai des invités qui ont des petites peluches, qui ont des mascottes, qui ont des t-shirts, enfin tout un tas de choses dans ce type-là qui sont en fait un peu du domaine du magique. C'est-à-dire que le mot magique, le geste magique, l'objet magique, vous lui donnez de la magie en fait en le répétant et en associant un état d'esprit positif à cet objet-là, et donc vous lui donnez de la magie et du pouvoir en fait. C'est un petit peu ça. Troisième, dernier outil, c'est les mantras. Alors ça, j'ai déjà fait un épisode il n'y a pas si longtemps que ça sur le sujet. Je fais des posts Instagram aussi sur le sujet. J'en parle aussi dans un programme que j'ai sur mon site internet sur la confiance. Donc là, les mantras, j'explique aussi comment on peut créer le sien parce qu'il y en a, il y a des systèmes pour créer le sien et tout. Je vous en donne quelques exemples. Vous allez comprendre assez bien le principe. Un mantra, vous pourrez vous répéter, c'est mon jour, je me sens bien, et vous pouvez le faire. Alors, on pourrait rajouter aussi de la posture magique aussi, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous pouvez gonfler les épaules, vous regarder dans le miroir en disant c'est mon jour, je me sens bien, je suis prêt, je suis prête. Vous pouvez vous dire aussi, alors ça c'est par exemple en regardant dans le miroir, vous pouvez vous répéter en courant, en entraînement, avant l'entraînement, après l'entraînement, pendant la course, sur la ligne de départ, enfin tout moment. Pourriez-vous dire aussi mon corps n'est pas parfait mais fonctionne, ça c'est un truc je sais qu'il y a des gens chez qui ça marche très bien. Un autre qui marche bien aussi, c'est mon corps et mon esprit forment une équipe puissante. Celle-là je l'aime bien parce que justement ça rappelle tout ce que je viens de vous dire dans le début de l'épisode. Mon corps et mon esprit forment une équipe puissante. Mon énergie augmente. Vous pouvez avoir ce truc là aussi. Alors sur l'entraînement, peut-être sur la course c'est un peu plus compliqué, mais sur l'entraînement, vous pouvez dire mon énergie augmente au fur et à mesure de mes entraînements, au fur et à mesure de mes efforts. Et puis bien sûr, celui-là, je peux pas le rater. Chaque pas me rapproche de mon titre de champion ou de championne du monde, de mon monde. Voilà, celui-ci, c'est un mantra que vous comprenez, hein, qui est pour moi assez fort. J'en avais d'autres, j'ai cité aussi des mantras de Rich Roll et autres à une époque, pour dire qu'en fait, je suis à la place, hein, et celui-ci marche très bien aussi, je suis là où je veux être, et j'ai fait tout ce que je fais pour être là où je veux être. Alors celui-là, il est un peu, je viens un peu de vous le sortir, Rich Roll a une formule qui est un peu différente, mais je trouve que le chaque pas me rapproche de mon titre de champion et de championne du monde de mon monde, et quand même un mantra qui nous correspond très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je vous laisse adopter ces outils. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram. Vous pouvez aussi, si vous voulez aller plus loin, j'ai cité des programmes, j'ai cité certaines choses hein, au fil de l'épisode. Et notamment, nous pouvons avancer ensemble sur le plan de la préparation mentale si on en a besoin. Vous trouvez un formulaire de contact dans les liens dans l'épisode hein, sur mon site. Vous pouvez me contacter, vous pouvez me poser vos questions. Si vous avez besoin d'avancer, mais plus précisément avec des questions précises, si vous voulez, je vous accompagne sur ces domaines-là, parce que vous avez compris qu'il y en a plein d'outils, hein, plein d'outils. Moi, je suis certifié en préparation mentale. J'ai aussi mon expérience de ce que j'ai fait, de mon parcours. Donc, si vous reconnaissez dans ce que je fais, si vous reconnaissez un petit peu dans ma vision des choses, si vous voulez qu'on avance ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle fin de préparation pour tous ceux qui sont en préparation. Et bien sûr, un bel objectif, une belle course, un beau défi pour tous ceux, toutes celles qui sont dans ces moments-là. Voilà, on attaque la période où il y a beaucoup plus de courses, il y a plein de marathons qui arrivent, il y a plein de défis qui arrivent. Donc, je vous souhaite une belle réussite et je vous souhaite surtout de devenir champion ou championne du monde de votre monde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao, mes champions et mes championnes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.